vous écoute avec grande attention.
Oui, c'est ce que je voulais dire justement avant de, qu'on vous demande de faire cet article. Qu'est-ce que vous faisiez avant?
À ce moment-là, j'étais médecin de rééducation, praticien hospitalier, j'étais responsable de la formation des internes, etc., dans le service de rééducation fonctionnelle au Haut-du-Roi. J'y ai passé 19 ans quand même, compte bien. Petit problème avec un patron qui me harcelait moralement, mais bon, j'ai tenu le coup. Et puis un jour, j'ai dit, maintenant, je m'en vais. C'était l'année de mes 50 ans, je ne sais pas si ça y a fait. Et je suis partie un peu en humanitaire. De là, je suis allée à Roanne, parce que je n'ai pas trouvé tout de suite un nouveau poste. J'avais perdu le mien en démissionnant. À Roanne, où j'ai travaillé 6 ans quand même. J'étais chef de service, mais j'avais 2 temps plein et demi. Sur le dos, j'avais beau dire qu'on m'aide, je pouvais déjà plus marcher pratiquement. Donc j'ai dit, je démissionne. Donc j'ai démissionné du public complètement. Et j'ai fini ma carrière chez des amis qui étaient un centre de rééducation fonctionnelle à Saint-Jean-de-Védas, donc c'est pas très loin de chez moi. Et là, malheureusement, mon ami est mort d'une crise cardiaque en 2014. Et j'ai continué à travailler parce que le centre avait besoin de médecins qui connaissent un petit peu. Donc à mesure, mon temps de travail a diminué jusqu'à ce que je m'arrête à 70 ans. Ben, c'est fait. Voilà. À part ça, j'ai eu une carrière formidable parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes. J'ai travaillé un peu en médecine du travail à un moment, un peu en recherche. Je suis partie en Sierra Leone pendant la guerre. Je suis allée en Palestine, à Gaza. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, des fois brèves, mais qui m'ont marquée. Et comme expérience des pertes d'intégrité, je peux vous dire que j'en ai vu. Ne serait-ce que en Sierra Leone, où ça a été le summum, j'étais dans le camp des amputés. Donc, parce que la guerre, c'était les manches courtes ou les manches longues, je ne sais pas si vous vous rappelez, on leur coupait les bras et on fait autre chose, difficile, il faut regarder. Donc il y avait un camp spécial pour les amputés, on formait les Sierra Leonais à faire les appareillages, les prothèses, et à surmonter un peu tout ça, parce que à cause de la guerre, les rebelles avaient brûlé. Les fauteuils étaient cassés, ils avaient brûlé les attelles, les enfants avaient grandi, ceux qui avaient des polios, ils n'avaient plus d'attelles et plus de rails. Les lépreux avaient vu la lèpre revenir, alors qu'ils étaient blanchis pour la plupart, sans traitement, ça s'est revenu. Donc il y a eu toute une des conséquences de la guerre auxquelles on pense. Honnêtement, je n'y pensais pas avant de partir. Voilà. Il y avait un petit peu à remettre en route un travail d'équipe au niveau du gouvernement même. Dire on peut faire quelque chose, mais il faut que tout le monde s'y mette. Et ma mission s'est terminée un peu plus tôt que prévu, parce que j'ai été opérée d'un bras entre temps. Et on a décidé que je ne reprenais pas, parce que j'avais fini ce que j'avais, c'était mettre en situation de réunion les membres du gouvernement responsables. Alors, ça, c'est la médecine du travail, parce qu'il faut bien que les handicapés puissent travailler, la santé, bien sûr, les routes. Parce que rien n'était accessible, en fauteuil c'était impossible. Et là, des fauteuils en Sierra Leone, il y en aurait à tous les coins de rue. Quoi. Et on a eu une première réunion qui s'est bien passée, et après, je suis partie. Voilà comment ça s'est terminé. Et puis, je suis allée donc à Saint-Jean-de-Védas. Voilà un peu mon parcours.
Le Gros du Roi, c'est là où visite Christophe Amédro, qui sera notre prochain intervenant. Dans un mois, c'est lui qui anime l'exercice d'écoute.
Voilà, mais c'est bien. Et moi, je suis installée au Gros du Roi, j'avais pris une maison près de l'hôpital, donc j'y suis encore. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut commencer. Sur les pertes d'intégrité, ça fait âpre comme terme, c'est difficile, c'est... Ça ne donne pas envie de travailler là-dessus. Moi, je ne sais pas vous, mais ça ne donne pas envie. Et qu'on soit soignant, qu'on soit aidant, qu'on soit juste visiteur au sens de... On va, on visite, on parle, mais on n'a pas d'acte, de soin. On est tous interpellés. Je suis désolée, mais en général... Donc, les patients hospitalisés, quand ils ont un traumatisme, une perte... que ce soit brutal, que ce soit secondaire à une maladie, ils se retrouvent en situation de deuil. Vous perdez un membre, vous faites le deuil du membre. Vous perdez la marche, vous faites le deuil de la marche. Vous perdez la vue, pareil, il faut faire le deuil. Et ça, c'est pour ça que ça ne nous attire pas. Parce qu'on a tous cette idée derrière. Ce deuil qui est difficile et qu'on ne sait pas comment appréhender. On se pose des tas de questions. Alors, il y a les pertes d'intégrité physique dont je vous ai parlé, la marche, la perte d'autonomie. C'est terrible, ça, de se retrouver à ne plus pouvoir faire. Et ça, tout le monde y sera confronté. Il y en a qui le sont peut-être déjà. Il y a moins de mémoire, hein, qui font plus du sport. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui en font encore, là, sur le... Hein, ouais, bon, d'accord. Il y a la notion de douleur et de fatigue qui fait perdre énormément. Et j'écoutais l'autre jour une émission où le spécialiste disait que la fatigue intervenait énormément sur la perte de mémoire. Mais encore plus la douleur constante, permanente, qu'on peut avoir dans certaines maladies, c'est énorme. Alors, on ne sait plus incriminer autre chose que la douleur qu'il a tout le temps. Ça, je pense que les patients doivent vous en parler, mais c'est dur à dire aussi. Hein. Je crois que des fois, il faut un petit peu amener le sujet sur la mémoire, sur la fatigue. Les gens parlent mieux après si on est un peu amené. Après, il y a aussi la perte de l'intégrité psychique. La question, c'est qu'est-ce que je suis devenue ? Je ne me reconnais pas. Je ne sais plus qui je suis. Ma sœur aînée, là, qui a 17 ans de plus que moi, me l'a dit tout à l'heure. Elle m'a dit je ne sais plus ce que je suis. Ça pose quand même un certain problème. Hein. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je n'ai pas le courage de recommencer. On trouve un fauteuil roulant d'un coup. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment va être ma vie ? Qu'est-ce que je peux devenir ? Est-ce que je peux encore servir à quelque chose ? Ça, je t'appelle. Voilà. Est-ce que je pourrais reprendre ma vie d'avant ? Comment on va aménager les locaux, tout ça ? Il y a la perte d'intégrité sociale aussi. Parce que derrière chaque patient, il y a une famille, il y a des amis, et tout le monde est touché. Tout le monde, quoi que ce soit que vous voyez, on est touché. Alors bon, la famille est conjointe, les enfants, quelqu'un qui ne peut plus prendre ses enfants dans les bras. Est-ce que je pourrais retravailler, mais le recyclage, est-ce qu'il est possible ? Qui va m'aider ? Les problèmes de logement, alors surtout pour les personnes âgées qui ne peuvent plus rester seules, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont en EHPAD. Mais aller en EHPAD, c'est perdre son cadre de vie, c'est perdre ses meubles, perdre ses... Obligatoirement, laisse des souvenirs, on n'emporte pas tout à l'EHPAD. Donc là, imaginez la perte que c'est...
Et quand vous parlez de deuil, c'est vraiment ce qu'on entend, nous, notamment dans les SSR. Mmh. Voilà. Mmh. Il y a l'hospitalisation, il y a le passage en SSR, et là, il y a une annonce pour dire, bah, non, vous ne pourrez plus rentrer chez vous. Et là, c'est vraiment, quelquefois bien vécu, la manière dont c'est présenté avec les enfants, mais...
Mais même quand on rentre chez soi, j'ai fait l'expérience, donc, il y a 4 ans, quand on rentre chez soi et que ce n'était pas prévu, je suis allée me faire opérer, je pensais marcher. Et bon, voilà. Vous vous retrouvez avec des tas de problèmes, le fauteuil qui ne passe pas aux portes, la porte qu'on ne peut plus refermer, avec des tas de trucs. On a ça en tête, on se dit, mais ça va être insoluble. Et je regrette, mais on est aidé très peu. Même les assistantes sociales ne font pas grand-chose, je trouve. On vous dit, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, il faudrait mettre une porte coulissante, mais après... Donc, si vous voulez, on se retrouve à faire des deuils. Mmh. Un petit deuil que j'ai fait, je peux plus monter à mon grenier. Au premier, je peux, puisque j'ai un monté escalier, et au grenier, je peux pas. Donc, c'est rien, n'est-ce pas ? Mais je vous donne ça comme exemple. Voilà. Et puis, alors, il y a l'atteinte, disons, plutôt d'intégrité spirituelle. Parce que on parle très peu de ça, souvent. Peut-être vous en parlez plus facilement. Et c'est pourquoi. Pourquoi Dieu permet ça ? Pourquoi j'y arrive plus ? Pourquoi l'aide que j'attendais n'est pas celle qu'on me donne ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel châtiment ? Ça, c'est dit souvent. Hein. On note aussi une réaction face à l'agresseur. Dans le cas, par exemple, d'un accident de voiture causé par quelqu'un, ça peut être tout ou rien. On peut pardonner et on peut, au contraire, haïr, mais... De façon terrible. Hein. J'avais noté aussi, dans le stress qu'on a en permanence, de se dire, bien, je vais me déplacer, mais il faut que je fasse attention à ça. Il ne faut pas que je tombe quand je passe de mon lit à, je sais pas, un fauteuil ou autre. Il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Et ça fait un stress permanent qui est vraiment pénible. Donc ça aussi, on n'est plus apte à imprimer ce qu'on lit, ce qu'on voit à la télévision. C'est vraiment un peu le noir total, je trouve. Là, je ne parle pas que de mon expérience, hein, parce que bon, j'ai passé le cap, mais je veux dire, c'est, vrai, c'est vraiment un temps de noir, un temps de deuil. Voilà. Alors vous avez peut-être d'autres idées là-dessus. Qu'est-ce que j'ai pu oublier là-dedans?
Je pense aux résidents qui arrivent en maison de retraite. Hein. Pendant un temps plus ou moins long, ils vont être dans une forme de prostration qui se verra ou qui ne se verra pas. Je pense à ma maman qui est en maison de retraite depuis 6 mois ou je ne sais pas combien de temps. Et un jour, je vais la visiter. Delaya. Bienvenue.
J'ai crevé en arrivant.
Ah, ça va là? Oui, j'ai rangé. C'est réparé.
J'ai tout fait.
Bon, on a pas
voilà. Ça va, la maison, c'est fait, c'est réparé?
Non, je mets le temps de venir à pied. En voiture, ça va un petit peu plus vite qu'à pied.
Désolée.
Est-ce que c'est une perte d'intégrité?
Donc, voilà. C'est la voiture, oui.
Ouais. Je vais visiter ma maman. Elle venait de chez le coiffeur, mais au bout de quelques instants, elle se met à pleurer. Et elle me dit, on est venu me chercher pour aller chez le coiffeur sans me demander. Je n'ai pas pris le rendez-vous. Donc, je ne vaux plus rien. Ouais. Et donc, vous voyez, en voulant,
on est plus maître
en voulant lui faire plaisir, elle était bien coiffée et tout, hein, mais on était passé outre son consentement ou son désir. Ouais. Et donc, on est venu la chercher comme on vient chercher quelqu'un pour aller au bloc opératoire. Quoi.
Comme un objet.
Et donc, ça l'a blessé profondément. Ouais. Et ça peut arriver combien de fois quand on arrive dans un EHPAD hein.
La même chose avec la douche souvent. C'est le jour de douche, ouais, dimanche voilà. Après-midi, voilà. Lundi mardi matin.
Ah oui, c'est effrayant. Hein. Ouais. Centre de rééducation du GT, c'était ça. Hein.
Il y a trop d'autres.
Oui, allez-y, parce que moi j'en ai encore quelque chose, mais j'attends de voir. J'ai oublié de vous dire quelque chose, je ne l'avais pas noté comme ça, mais je vous en parlerai. Il y a d'autres choses que j'ai pas vues.
Du coup, c'est une perte d'intégrité sociale, j'ai envie de dire.
Oui, voilà. On n'est plus soi, mais oui. Plus. Puis, remarquez une chose, on vous dit souvent, on va à la douche. Moi, un jour, j'ai dit, bah, écoutez, allez-y, moi, je ne veux pas. Et ça fait réagir. Non, je fais rien. Ça fait réagir ce pont, je ne sais pas comment on peut s'en débarrasser. Moi, je vous le dis aussi, hein. Mais on va faire de la rééducation. Mais c'est moi qui marche, c'est pas vous. Donc là, je crois qu'il y a. Je ne sais pas par quoi on peut le remplacer, ce rond. C'est vrai que ça vient spontanément.
Hein. Moi, je voudrais que vous. Excusez-moi, j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur le point que vous avez dit, la douleur est responsable de la perte de mémoire.
La douleur permanente est importante.
Ah, du fait qu'on se focalise dessus.
Oui, et puis ça déconnecte carrément. Ouais.
D'accord.
Et là, c'est la première fois que j'entendais un médecin spécialiste de la douleur et de la perte de mémoire. Il faisait le lien entre les deux. Il avait les deux spécialités. Mais... Donc, c'est vrai. Moi, j'ai souffert énormément les premiers temps. Là. Je peux vous dire que je n'imprimais rien du tout. Je me disais, tu vas retenir ça. Impossible. Après, quand ça va un peu mieux, puis quand on dort un petit peu, voilà. Ça vient très vite. Je vous le souhaite pas, parce que c'est vraiment. Voilà. C'est ça que vous vouliez savoir?
Oui.
Il y a le on, puis il y a le. Elle va y aller, ou il va y aller, c'est pas mieux, hein.
C'est pas mieux.
Le tutoiement aussi, chez certains personnages, ça me choque des fois.
Oui, le tutoiement aussi, moi, ça me choque aussi. Ça me choque.
On infantilise un peu.
Oui. Ah, oui. On n'est pas maître de soi quand on est malade et quand on est handicapé. C'est pas vrai. Vous avez toujours quelqu'un qui va vous mener là où vous ne voulez pas, qui va vous faire une activité, par exemple, collective. Dans les EHPAD, on les oblige à faire telle chose à tel moment. C'est le moment de danser, c'est le moment de chanter. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de liberté. Et ça, on y tient la liberté.
Il y a une manière de dire les choses qui permet d'accepter beaucoup de choses, je crois. Parce qu'on est tous avec des contraintes. Vous êtes venu à 14h30 parce que c'était imposé. Mais là, il y a une manière de le dire qui, justement, préserve l'intégrité, qui fait qu'on vient volontiers. Il y a une manière, et ça peut tenir à pas grand-chose, je crois, hein, qui fait que, du coup, on se sent avili presque, ou contraint.
Je ne sais pas, il faudrait peut-être avoir l'habitude de dire « Monsieur un tel, est-ce que vous voulez que je vous accompagne à la douche ?»
Voilà.
Voilà. C'est une phrase plus longue, mais bon, on pourrait faire l'effort.
Oui, oui, oui.
Mais c'est vrai que tous les soignants ont fait pareil. Hein. Moi, je l'ai fait toute ma carrière, hein, de dire bon.
Mais dans beaucoup de choses comme ça, quelqu'un qui vient faire une prise de sang à un patient, lui explique à peine.
Non, c'est le bout de la langue de compliqué.
Voilà. Bon, attention, allez, donnez le bras.
Oui, oui, vous l'expliquez. D'accord, quand on vous dit donner le bras, c'est déjà ça. Il y en a qui arrivent, qui disent rien.
Donc c'est un manque de formation.
Je pense que du côté des infirmiers, infirmières et des médecins, il n'y a pas assez de réflexion sur le fait que ce sont des personnes qu'on côtoie, ce sont des personnes qu'on essaie de soigner ou qu'on accompagne. Les aides-soignantes, je trouve, ont plus ce côté.
Plus proches.
Oui, elles sont plus proches. Moi, j'ai regretté à la fin d'avoir été médecin. Je me serais sentie plus proche. Non, c'est vrai, je rigole. Je me trouve. Les dernières années où j'ai travaillé, j'aurais préféré travailler comme aide-soignante. Mais bon, j'avais pas les capacités physiques de le faire.
Non, mais nous c'est ce qu'on
dit. Non. Moi, j'étais médecin généraliste, donc j'étais très proche de mes patients.
Oui.
Donc, j'ai pas.
C'est possible alors.
C'est possible.
Oui.
Et vous, vous étiez médecin ?
Je travaille.
Je travaille.
C'est vrai que j'étais très proche.
C'est différent.
C'est plus qu'en
oui. Je travaillais à la poste du Gard pendant 2 ans.
Ah oui.
Avant de partir à mission, c'était chouette. J'ai bien aimé. Mais bon, il me manquait le côté de soignant. Ça m'a manqué. Voilà. Et alors, je vois que...
Oui, pardon. Je m'interrogeais. Est-ce qu'il est juste d'être modifié son langage entre distinguer, disons, entre le contact avec la personne qu'on ne connaît pas ou qu'on rencontre pour la première fois. Je pense à l'aide-soignant, on va à la douche, voilà, pour reprendre cet exemple, la première fois qu'il rencontre la résidente de l'EHPAD, ou la personne qui fait partie en quelque sorte de la famille, de la maison, qui peut peut-être se permettre des raccourcis, qui deviennent familiers, il me semble que ça n'a pas le même poids, peut-être.
Voilà.
Quand la relation est créée avec le résident, que quand la relation est à créer.
Et dans le fait de dire on va à la douche, il faut penser aussi on va déshabiller la personne.
Ouais.
Et ça, la pudeur, elle en prend un sacré coup, je peux vous le dire. Et finalement, si on arrive à le faire en douceur, je pense que ça serait mieux. Si c'était Madame Kismik, est-ce que vous voulez prendre votre douche, ça passerait mieux, moi.
Bien sûr.
Ouais, je crois que ça passerait mieux. Marqué, ça a l'avantage qu'on se dépêche d'être autonome si on le peut. Ça, ça a vite, là. On a fait des efforts, au moins, parce que... Voilà. Et alors, il y a une chose, quand même, que j'avais noté, là. La perte de la relation avec le Seigneur. Hein, je connais là, en tant que chrétien. Qu'est-ce qui se passe sur un traumatisme important, hein, bon, des fois, c'est sur un traumatisme minime, mais sur un traumatisme important... Vous vous trouvez tout d'un coup, par exemple, à l'EHPAD, comment vous continuez votre vie de foi, votre vie de l'Église, qu'elle soit catholique, protestante ou autre, comment vous êtes comment vous restez en lien? Le lien avec les autres, le lien avec le Seigneur, ça, on n'en parle pas quand on parle d'intégrité. Et quand on le perd, c'est quand même important dans une vie. Vous n'avez plus rien, vous ne pouvez plus aller à l'église, vous ne pouvez plus suivre des conférences, vous pouvez plus, personne ne vous amène, vous ne savez même plus quand ça existe. Les gens qui vous connaissaient, vous ne les voyez plus.
Il y en a beaucoup qui n'ont même plus à lire, qui n'ont même plus la capacité de lire. Ça, c'est terrible.
Hein, c'est vrai que les visiteurs de Monnerie sont utiles.
Oui, non, c'est ça, voilà. Oui. Moi, je pense que vous êtes le lien qui reste sur le plan de la foi. Hein. De l'expression de la foi.
Dans certains cas, oui.
Mais quelquefois, au début, quand ils viennent d'arriver, si vous prenez l'exemple de l'EHPAD, il y a un peu la traversée du désert. Et, voilà. Donc ils ne veulent plus entendre même parler de Dieu. Enfin bon, voilà, c'est difficile. Oui. Et comme c'est, on a des visites régulières, on n'est pas de. C'est l'avantage, c'est que
alors,
on les suit sur une longue durée. Et petit à petit, ça revient, quoi. Ça prend un peu de temps et la colère s'apaise.
Ça pèse. Vous parlez de désert. En hébreu, ça se dit midbar. Ça veut dire le lieu de la parole. Moi, quand j'entends désert, je pense silence, je pense. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir un désert, d'y être un peu. Mm-hmm. Et c'est le lieu de la parole. Et ça, c'est important. Parce que là, si on écoute, on entendra. Et on sera entendu.
Parce que la parole, avec qui ?
La parole de Dieu.
La parole de Dieu. À cause de la dimension de solitude.
Oui, oui, oui.
C'est la solitude aussi.
Je vais l'amener au désert et là, je parlerai à son cœur.
Voilà, oui, oui. C'est tout à fait ça.
Il y a une dimension, quand même, puisque vous avez abordé l'aspect spirituel, je pense quand même que les gens qui ont, comment dire ça, vécu leur foi, leur christianisme, je parle du christianisme, mais pas d'autres foi, qui savent mourir à eux-mêmes. Je sais, c'est un langage un peu théologique, mais...
Non.
Je pense qu'ils acceptent mieux. Maintenant, tout dépend quelle perte d'intégrité ils souffrent.
Ah oui, c'est ça. Dès que ça touche à l'intellectuel, après,
et il
oui,
faire.
Voilà, c'est ça. C'est oui, oui. Moi, j'ai un frère qui a perdu la tête.
Enfin, en dehors de ça, on peut certainement mieux accepter les contrariétés, les adaptations nécessaires, que sais-je.
Moi, je m'étais cru forte, et puis je me suis rendu compte que...
Non, mais tous ces deuils que vous venez de citer... Je dis pas que...
Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui passent,
je dis pas que c'est facile,
qui passent d'un stade à l'autre, d'un statut à l'autre. Extérieurement, on ne voit rien. On a l'impression que ça glisse sur eux, qu'ils sont bien quand même. Que... Est-ce que c'est vrai dedans? Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas possible d'accepter tout comme ça. Enfin, je sais pas.
Et puis, il y a aussi ce que Boris Cyrulnik a mis en évidence, la résilience.
La résilience.
Mais ça se fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Non.
C'est un processus.
Il y en a qui le font mieux.
Ça prend du temps. Ça prend du temps.
Puis tout dépend de la vie d'avant aussi.
Oui, mais voilà. Oui.
Voilà, les responsabilités. Enfin,
oui, mais après, il y a le moment où vous pouvez couper de tout.
Oui.
Vous trouvez couper. Moi, je faisais partie, par exemple, je vais manquer en avant, je suis désolée. Je faisais partie de beaucoup d'équipes de réflexion. On a étudié la Bible ensemble, on a même fait opérer l'héritage ensemble. Et. Je me retrouve, il n'y a plus personne tout d'un coup. Je me dis, mais alors, quelle était la valeur, parce qu'on m'interroge, quelle était la valeur de notre relation? Les réunions se faisaient chez moi, donc je veux dire, les gens, ça où j'habite. Il y en a une qui passe devant tous les jours, à vélo. Elle passe.
Elle ne veut pas déranger ou...
Oui, voilà, c'est ce que je me suis
dit.
En fait, je veux dire, voilà, c'est une, mais il y en a d'autres. Hein. Ouais. Et ça, je l'entends moi très souvent, ça. On vous laisse pour moi.
Comment on l'explique alors ça?
Je crois que c'est la peur du handicap qui se voit. Je dis bien qu'il se voit parce que je pense que c'est ça. Je ne peux pas l'expliquer autrement, c'est pas. On a peur de déranger, vous avez raison.
Quelquefois, oui. Pour m'en dire un instant sur ce que dit Armand, quand Saul de Tarse se convertit, Jésus lui dit va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est-à-dire, c'est plutôt qui décide maintenant.
Ouais.
Tu es un instrument que j'ai choisi, dit Dieu à Ananias. Et donc, dans ce sens-là, un disciple a appris à dire, par exemple, que ta volonté soit faite. C'est une forme de dépendance,
oui.
Sans perte d'intégrité. Ça, c'est l'expérience chrétienne type, quand même. Hein. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les chrétiens apprennent nécessairement plus facilement que les autres. Mais on pourrait dire, ils pourraient.
Ça s'appelle la croix. Ça s'appelle la croix.
C'est vrai, on est tellement démunis face à tout ça. Je veux dire, c'est noir comme tableau, hein. Et pourtant, il y a des choses qui sont positives. J'avais un peu noté la découverte d'une certaine solidarité, de vous trouver dans un centre de rééducation. C'est fou ce qu'on peut s'entraider, s'encourager. Hein. Les soignants participent, mais les malades aussi. Il y a aussi le partage avec les autres traumatisés. On arrive un petit peu à discuter avec les soignants quand ils ont donné le temps. Moi aussi, c'était enrichissant, il faut le voir, ça. Il ne faut pas qu'on occulte le positif. Bon, après, ben, chacun est appelé à un certain dépassement de soi. Hein, ou faire un pas de plus, faire un geste de plus, tirer encore plus sur la ficelle de la polythérapie, enfin des trucs comme ça. Et puis il y a le temps pour le fait d'être immobilisé donne le temps aussi pour une réflexion sur soi, sur les autres, sur la vie, sur la relation à Dieu. Hein, on a du temps pour la prière. Est-ce qu'on l'utilise ou pas, ça dépend de chacun, hein, parce qu'on ne peut pas des fois. Et puis, bon, être positif, le bonheur d'une certaine guérison, des fois il y en a qui guérissent quand même dans le lot, retrouver, je ne sais pas, bon, une fonction qu'on a perdue, un bras qui marche normalement, enfin, ça aussi, c'est à partager. Il ne faut pas le laisser de côté. Donc je crois que, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que chrétiens qui fréquentons les hôpitaux? Rien. Moi, je dis rien. Nous, on n'a aucune réponse à apporter. À mon avis, on a simplement à être transparent en Dieu, à le laisser s'installer en nous, lui laisser...
En tant que visiteur ou en tant que personne touchée?
En tant que visiteur. Hein, le laisser s'approcher avec lui des autres, sentir qu'il est là, si on peut le faire, et comment dire, lui donner nos mains pour faire le soin, pour faire... Alors en tant que visiteur, ce sera simplement pour un sourire, par exemple, mais être là, vide de nous-mêmes, voilà, et laisser la place à Dieu. Et ça, c'est, je crois qu'il n'y a rien d'autre à apporter, il n'y a pas de réponse. La seule réponse, c'est Dieu présent avec nous, un Dieu tout-puissant, un Dieu aimant, un Dieu qui fait attention, un Dieu qui écoute, hein, mais c'est à travers nous qu'il le fait.
Hein. C'est très beau ce que vous dites. Hein.
Mais je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Oui, oui, oui.
C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on vient les mains nues.
Oui, et on manifeste, fêter avec les mains, si on veut, on manifeste la présence de Dieu. Hein, on en fait une fête, on en fait un moment de joie. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Mais c'est quand même important. Hein, parce que. Voilà. Et la réponse, en fait, on l'a, mais on l'a à notre insu. Vous la vivez tous. Et sans y avoir touché du doigt cette partie-là. Quoi. C'est pas formulé, quoi. Voilà.
C'est un peu aussi une sorte de deuil par rapport à nous-mêmes, dans le sens où on laisse totalement.
Ah, oui. Il faut se vider de soi, quand même, voilà. J'avais raison. Être transparent, être clair, être fraternel.
Vous pensez que cette attitude, on peut la communiquer quelquefois?
Je pense que si vous avez cette attitude, les gens vont vous copier.
Ça se communique.
Se pose des questions.
Ouais.
C'est contagieux.
C'est bien de poser des questions. C'est pas bien de poser des questions. Parce que on travaille trop, je sais pas.
Oui.
Mécaniquement, enfin voilà. Tiens, je vais voir un tel, je vais voir un tel, je passe à cette chambre. Et qu'il y a entre les deux, si je n'ai pas Dieu avec moi, ça ne sert à rien.
Absolument.
Ou si il n'est pas à ma place plutôt.
Oui.
On ne se met pas devant. Ouais.
Alors il faut être témoin de ce que vivent les gens face à Dieu. Ouais. Après, dans le temps de prière, ramener le témoignage de ce qu'on a vu. Il faut qu'on se le formule à nous. Pour que Dieu l'entende, c'est pas vrai, mais c'est pour nous imprimer ce qu'on a perçu. Je suis désolée, mais on va voir. Et puis, il y a le temps de la relation, être témoin du Père auprès de ceux qui sont traumatisés. Donc, être témoin des traumatisés auprès de Dieu, être témoin de Dieu auprès des traumatisés. Je crois que là, on a les deux
échelles. Sans forcément faire de grands discours.
Voilà, et sans y être au milieu.
Sans y être au milieu.
Ouais, voilà. Non. C'est vrai que... Alors après, moi, je ne sais pas comment vous...
Ah, mais je ne m'attendais pas à entendre ça.
Pourquoi?
Parce que, je ne sais pas, je m'attendais à un tas de trucs techniques, mais en fait...
Je pense que c'est ce qu'on m'a demandé, non?
Oui, mais félicitations, hein.
Non.
Mais alors là, si vous avez des félicitations d'Armand, je vais...
J'aurais des chevilles en fait, ça va pas.
Là, on est au sang.
C'est rare.
En fait, c'était à 95 que je passais ça. Hein. Je me suis appuyé beaucoup sur mon texte. Là, c'est pas mal, alors. C'est ce que vous attendiez. Non, vous attendiez pas, oui. Non, je pense que ce serait bien que chacun puisse dire un petit peu les moments où il trouve des difficultés, le moment où les choses chouettes qu'il a vues, ce serait peut-être bien de le partager aussi.
Oui, les émotions.
Voilà. Je termine en vous donnant un truc personnel. J'ai pris une colère noire. En centre de rééducation, à Val-de-Boule, il y a une grande salle de kiné avec 16 tables de massage, tout autour des espaliers, des trucs de torture, des barbares à l'air. Et alors on se retrouve là-dedans, enfin c'est un peu, bon, au début j'étais quand même totalement paraplégique, hein, j'arrivais pas à monter sur la table derrière. Et j'entendais une kiné qui parlait toujours très fort, elle était très compétente, très gentille, elle rigolait très fort. Mais elle prenait tout le monde à témoin de ce qu'elle faisait tout. Et sa phrase, c'était « quand on veut, on peut ». J'ai pris des colères, je me suis retenue, je ne lui ai jamais forcé dans le larme, j'ai pris des colères noires. Et puis à l'intérieur, je me disais, mais elle sait ce qu'elle dit. Bon, moi je venais d'apprendre que j'étais paraplégique, j'ai pas récupéré. Mais vous savez, vous retrouvez du jour au lendemain comme ça, à ne pas savoir comment ça va s'arranger. Enfin, quand on veut, on peut. Oh là là. Alors ça, ne le dites pas, ne le dites jamais. Ce sont des phrases, c'est dit gentiment, si vous voulez dire, faites un effort. C'est vrai qu'il y en avait qui ne faisaient pas d'effort, mais bon, c'est pas en disant ça que vous encouragez les gens. Non. Ça, c'est une parenthèse.
Est-ce que vous avez ressenti de la colère par rapport à ce qui vous arrivait?
Je vais vous dire, c'est la faute d'un chirurgien, clairement, qui en plus n'a pas été honnête, donc il y a mal fait le compte rendu opératoire, ce qui fait que j'ai attendu 2 ans pour me faire réopérer. Et que ça n'a pas trop bien marché. Je l'ai su à la deuxième opération. J'en étais pas ce que sûr, mais je l'ai su à la deuxième opération. Et bien la colère, elle était déjà passée. Je le plains. Je le plains parce que c'est un gars qui fait des bêtises sans arrêt, il travaille plus. Mais hein, il en a mis d'autres sur les fauteuils roulants. Bien, ça fait quand même. Mais il n'est pas venu me voir. Il n'est jamais venu me voir à partir du moment où j'ai été partie. J'ai fait 3 mois dans le centre, pas vu. Donc, de la colère, non.
Vous ne lui avez pas écrit?
Non.
Pourquoi?
C'est peut-être une forme de mépris. Mais 2 ans après.
Il n'y a pas de. Ouais.
Non, je ne sais pas. Alors, ça m'inquiète un peu parce que je me dis c'est peut-être une forme de mépris. Mais. Et ça me passera. Ouais. Parce que je ne voulais pas, c'est qu'il en a
d'autres. Non, mais en même temps, vous le privez de sa prise de conscience des fautes qu'il commet.
Je pense qu'il était conscient.
Ah, bah oui, mais
une fois. S'il n'est pas venu me voir, c'est parce qu'il était conscient.
Ouais.
Camoufler des brèches méningées, des trucs comme ça, on ne fait pas ça.
Pourtant, non, j'insiste un peu, parce que sur le niveau du pardon, Jésus est clair. Si ton frère a péché, va le trouver. Et si ça ne marche pas, prends 2 témoins. Et si ça ne marche pas, il y a une détermination à mettre les choses justement transparentes.
Oui, je ne sens pas, moi, ça me fait remonter ce que j'appelle. Mais je pense que vous avez raison, c'est moi qui ai tort, mais bon. Je ne vois pas aller le retrouver pour lui dire, tiens, vous voyez, c'est sympa.
Je pense qu'on le trouver peut-être pas, mais lui écrire.
Oui. Vous vous rappelez de visites au cours desquelles vous avez été confronté à. Vous êtes témoin de pertes d'intégrité qui ont pu susciter des réactions X et Y. Qu'est-ce que ça a produit chez vous?
Les accidents de voiture qui sont causés par un tiers.
Alors, moi, ce n'est pas dans le cadre de l'aumônerie, mais il y a 13 ans en arrière, quand vous parlez. J'ai ma sœur qui a fait un AVC, qui a été 3 mois dans l'établissement où vous avez travaillé, au Gros du Roi. Et le choc a été très grand pour moi parce que là, j'ai vu ma sœur, elle n'est pas chrétienne en plus. Et alors, elle a subi des... Moi, je partais malade, enfin, vous devez connaître la chose, l'appareil. On venait la chercher dans sa chambre et je ne sais plus, il y avait un nom, cet appareil, on suspendait ma sœur et on la baladait comme ça dans les couloirs, on l'a menée et moi je la suivais parce que c'était soit pour la mener aux toilettes, soit... Et je la voyais...
C'était comme un objet qui était pas...
C'était terrible, c'était... Et alors moi je me disais, mais qu'est-ce qu'elle doit ressentir là? Et en fait, je pense que j'avais l'impression d'être plus malade, plus choquée qu'elle, mais elle se laissait
mais
faire, elle
n'avait
pas de toute façon le choix. Ouais. De... Et ça a été. Voilà, ça a été des moments très très durs. Alors là, je suis désolée, voilà, c'est pas dans le cadre de mon mari, mais moi, j'ai vécu ça.
Les relations sont traumatisées, hein,
toujours. Voilà, et c'était...
Puis, moi, j'ai eu des familles qui pleuraient, des familles entières, quand on venait de dire, ben non, il faut amputer. Voilà, j'ai beaucoup travaillé avec ça. J'étais spécialisée, donc j'en ai vu beaucoup.
La maison de santé, il y a une résidente, hein, Raymond, vous voyez, que je veux parler, hein, qui... qu'on sort de son lit dans un sac, comme ça, avec une boule. Et chaque fois, je pense...
Ça doit traumatiser, ça.
Et après, il y a des désagréables avec les soignants, qui n'y sont pour rien. Donc, ça crée des situations qui peuvent se dégénérer, malheureusement.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? De l'autre côté, c'est vrai que les soignants, s'il faut porter quelqu'un d'un peu lourd, plusieurs fois, on peut le comprendre. Il y a des aides techniques, mais ça n'est pas humain, c'est pas...
Moi, je me disais, mais il n'existe pas autre chose que de la peindre en l'air comme ça, je ne sais pas, la porter autrement. Puis là, comme ça, c'était partout, dans le couloir, dans le hall. Vous ne l'avez jamais vu?
Non, je n'ai jamais vu. Pourtant, je sais que ça existe, mais je n'ai jamais vu. Et oui, je suis partie dans le 97, moi, de
l'hôpital. Donc c'était... Voilà. Mais alors, pour moi, c'était...
Non, c'était chaud. C'est fait normalement pour lever du lit et mettre au fauteuil. C'est pas fait pour balader.
Oui, non. Tu as connu?
Oui, au Crotteroy, j'ai travaillé.
Ah oui? Ah ben oui, au Crotteroy, au centre de... Oui, bien sûr.
Ah, les deux médecins qui sont en éducation, j'ai participé à leur formation. Donc, je vois un petit peu leur formation. Je pense que ça ne devrait pas bien passer. Ou alors, elles ont changé. Parce que c'est pas humain, ça. On cherchait à mouette bientôt.
Non, puis on se sent impuissant, hein. Nous, on est spectateurs de situations comme ça, mais...
Est-ce que vous avez
rien dit, on n'est pas soignants.
Vous n'avez pas des rencontres avec les soignants, de temps en temps, qui vous permettraient de faire remonter des trucs comme ça?
Quelquefois, on peut...
C'est rare, hein, moi, je n'en ai pas souvent.
La question est très importante, parce qu'on est témoin de beaucoup de choses, mais on n'est pas là pour inspecter.
Énormément.
Mais on ne peut pas faire comme si on n'avait pas vu.
Voilà.
Ça, alors, on est tous concernés, visiteurs et aumôniers. Et donc, il faut trouver la personne à qui on peut en parler, sans donner l'impression qu'on va faire un procès verbal pour la direction de l'établissement. Vous voyez, c'est un peu délicat, mais il faut réfléchir à ça.
Je crois que là, ça vaudrait beaucoup que vous fassiez une réunion avant.
C'est délicat, oui.
En y en passant là-bas. Mm-hmm. Je pense, c'est vrai que c'est dur d'être auprès des soignants, des patients. Et je pense que c'est encore plus dur. Quand on n'a pas de geste technique qu'on puisse apporter. Parce que nous, quand on soigne, c'est facile, on fait un petit geste là. Hein, des fois, c'est de la papouillothérapie, mais ça ne fait rien, ça fait du bien. Bien sûr, il y en a beaucoup. Ça fait du bien à la personne, c'est ça, les vrais.
Mais vous savez, de passer du temps à côté d'une personne assise, parce qu'on se met toujours à la hauteur de la personne, c'est très important, et d'être là à son écoute aussi, de dire je suis là pour vous, et la personne, quand vous partez, elle vous dit merci.
Oui,
et pourtant, on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, on a fait qu'écouter.
Il s'exprime.
Voilà, parce qu'elle a déposé un peu, parce que les soignants n'ont pas le temps de l'écouter. Et c'est vrai que là, moi j'ai toujours senti que ma mission était presque privilégiée par rapport aux soignants parce qu'on avait le temps, on n'a pas de montre, on prend le temps d'être là.
Donc, moi je veux vous dire, ce dont je rêverais, c'est que vous soyez inutile, que ce soit les soignants qui fassent en même temps ce que vous faites. Je sais que c'est un beau rêve, mais voilà, ce serait bien si c'était en même temps que le geste technique, il y avait le temps d'écoute, etc. Or, on ne leur enseigne pas du tout. Hein, on n'en parle pas. Moi, j'ai jamais entendu parler de l'écoute du patient ou autre. Hein.
C'est fou, hein.
Ouais, c'est incroyable.
C'est incroyable, parce que tout le monde le sait.
Oui. Ben voilà. Je regrette, mais c'est vrai, il faudrait qu'il y ait plus de visiteurs parce que les gens sont là. Quoi.
Quelques aides-soignantes qui font les toilettes ont témoigné du privilège qu'elles avaient justement d'avoir ce temps de faire une toilette parce que. Se dire des choses là.
Se dit beaucoup de choses
au moment de la toilette.
La toilette, là, c'est.
Marie-Louise Lamont, qu'on avait rencontrée au CEDIF, c'est ça ?
Oui.
Nous disait c'est un peu une excuse de dire on n'a pas le temps. Parce qu'il faut une demi-seconde pour dire un mot qui fait du bien à quelqu'un.
Oui.
Et donc, mais on peut le faire tout en faisant le soin.
Par exemple.
Oui, mais moi, je suis infirmière de profession, et donc j'ai vécu ce passage de rentrer dans une chambre avec une blouse et un plateau, ou un soin après, et après d'arrêter de rentrer dans une chambre justement avec la blouse, et en tant que visiteuse. Oui. Et donc il y a eu une adaptation, ouais. Parce qu'on a quand même des réflexes, ah ben tiens, la perfusion, et puis ci, ouais. Et puis ça, et puis le coussin, et voilà, donc il faut...
il faut s'interdire de faire
certaines choses. Mais aussi, il y avait une grande joie parce que j'ai vécu cette frustration. J'étais proche des patients, bonjour, oui, et tout ça. Mais la réalité était quand même là. Dans le dernier service où j'ai travaillé, on était obligé de cavaler de chambre en chambre, de répondre au téléphone et dans un service qui était avec une structure en étoile où on faisait beaucoup de kilomètres à pied. Donc, je veillais à la qualité de la relation au moment où j'étais dans la chambre, mais je vivais presque sans arrêt cette frustration d'avoir quand même une obligation de se dépêcher et de répondre au téléphone et la multiplicité des sollicitations.
On finit la journée complètement frustrée, voilà. Parce qu'on se dit, mais j'ai pas parlé avec un tel, elle voulait me dire quelque chose.
Et c'est pour ça que ça a trouvé un écho le jour où on m'a sollicité pour faire partie, je l'ai déjà dit, de l'équipe de l'aumônerie, en me disant, tiens, oui, j'ai rêvé de ça pendant des années quand j'étais soignante, donc là, effectivement, j'aurai le temps.
Oui, c'est vrai. S'interdire de faire des gestes, s'interdire de dire des paroles qui ne sont pas les nôtres, laisser Dieu parler à travers nous, le laisser agir quand même, parce qu'il faut se mettre au niveau, ça c'est très important. Je vous assure que quand je fais faire le marché ou autre, je vois que des derrière devant moi. Ouais, non mais c'est vrai. Hein, alors vous êtes là comme ça, c'est très important de se mettre au niveau des relations. Et puis... je crois qu'il faut aussi accepter qu'on fait mieux que ce qu'on croit. Finalement, souvent, on fait plus de bien que ce qu'on croit. On ne voit pas tout. C'est parce que ce n'est pas nous qui agissons. Hein. Si on ne fait pas barrière, je pense que ça doit aller. Mais bon, c'est à chacun de voir avec son caractère.
Non, c'est certainement vrai, parce qu'il n'y a pas longtemps, une présidente de la maison de retraite, donc protestante, m'a dit « je me suis rapproché de Dieu ». J'ai dit « bah bon, c'est une bonne nouvelle ». J'ai voulu qu'elle dise un peu quelques explications, alors elle m'a dit « c'est grâce à vous et à Pascal ».
Oui, mais c'est possible que ça vous ayez porté la petite réponse qu'elle a donnée à son mandat, et voilà. Par contre, il y en a qui s'en éloignent.
Comment?
Il y en a qui s'en éloignent. Il y en a beaucoup.
Pas à cause de l'aumônerie.
Il y en a une que j'ai failli remballer, moi, le jour. Je respectais ce qu'elle était, mais débarquer un dimanche matin, si vous voulez un communion, je vais vous l'apporter. Je ne savais pas qui c'était, Myriam. Ben, je dis, écoutez, oui, je suis d'accord. Elle est arrivée, cinq minutes après, je ne sais pas où elle est, elle m'a apporté la communion. Carrément, elle nous l'a donné, et puis elle est repartie. Bon, là, si j'avais eu du courage, je lui aurais dit non, j'accepte pas comme ça.
Manque de formation.
Oh, je pense, oui. Au moins un minimum se présenter. Je ne savais même pas que c'était quelqu'un de mon mari. C'est un peu spécial, là. Il y en a des révoltes quand on est pas bien. Je vous en ai montré quelques-unes, quand même. Mais après, il faut se remettre debout, ouais.
Je voudrais rappeler ce qu'avait dit la psychologue des soins palliatifs.
Marie
Arthaud. Oui, a raconté un jour à la commission de réflexion éthique. Elle a raconté un jour que un homme pas tellement âgé, apprend qu'il est atteint d'une maladie invalidante incurable. Et il demande l'euthanasie. Alors, évidemment, une infirmière qui a pris le temps pour parler un peu avec lui et qui lui a dit « Mais pourquoi vous demandez l'euthanasie? On va vous soigner, etc. » Et il a répondu « Je ne peux pas accepter d'être dépendant. » Et elle a répondu « Nous sommes tous dépendants. » J'ai trouvé que cette réponse était extraordinaire.
C'est vrai, c'est vrai.
Croyante ou pas croyante, elle a eu une réponse empreinte de sagesse qui était une invitation à aller au-delà de la réaction première quand même. C'est-à-dire il y a une démarche à faire. Et au bout de la démarche, vous verrez les choses autrement. C'est un deuil d'ailleurs. Hein,
oui.
C'est un deuil qui passe par la colère, la dépression, le marchandage, l'acceptation. Enfin, on a tous appris ça, quoi. Mais alors, je pense tout le temps à ce dialogue-là que je trouve magnifique. Et
vous êtes confronté souvent à des demandes d'euthanasie? Non.
Quelquefois, des personnes âgées qui disent je voudrais mourir, voilà. J'en ai assez.
Ils ne formulent pas, je veux comme du bois, clairement.
Oui.
C'est pas pareil. Olga, tu peux en témoigner si tu le veux, parce que tu m'as rapporté.
Oui. Un monsieur qui fait, c'est un double témoignage sur ce que vous disiez tout à l'heure. Un monsieur qui a tué une autre personne en accident de voiture, où il était responsable. Il avait besoin de le déposer. Donc il m'en a parlé, on en a discuté, etc. Et il m'a dit, maintenant je veux mourir. Bon, il est en fin de vie, il a un cancer en phase terminale, et il n'y arrive plus. Mais il avait besoin quand même de... Et le fait d'en discuter, je lui ai fait deux fois la communion, il y a eu quelque chose dans son œil qui fait du bien. Voilà. Mais là, c'est vrai que moi, je me suis retrouvée dans la difficulté quand j'en ai parlé aussi avec toi. J'ai pas eu l'impression d'avoir des... J'avais l'impression que mes paroles étaient creuses. J'avais pas l'impression que les...
Et la dame de 100 ans, tu m'as dit aussi...
Et une dame de 101 ans qui m'a dit, mais maintenant, je veux partir. Voilà. Pourquoi je suis là? Mon fils a plus de 70 ans. À quoi je sers? Enfin, ça y est, j'ai fait mon temps.
Je connais un vieux prêtre qui vient d'avoir 100 ans. La cérémonie du Croix du Roi Avezio.
Avezio, oui.
Donc on a beaucoup fait de choses ensemble. Mais bon, je peux plus monter, c'est qu'il y a deux étages. Alors je lui ai téléphoné parce que c'est l'anniversaire de son ordination. Et ça l'a. Il comprend presque plus rien. Et moi, la dernière fois qu'on a été ensemble, il m'a dit, mais j'en ai assez maintenant, ça fait trop long. C'est trop long de rester comme ça. Il n'y voit plus, il n'entend presque plus, même avec les appareils, il ne marche plus. Il est isolé dans son tristesse là au deuxième étage. Bon, il a des aides.
Alors, là, je me souviens ce que disait Serge De Vise, même, il y a longtemps, quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, il me semble qu'il disait, on ne va pas abonder dans son sens, ah oui, ça serait bien de mourir, comme ça, après on est tranquille, ni de contredire. Mais non, regardez, la vie est belle, les oiseaux, parce que dans les deux cas, on n'aide pas. Si on va dans le sens, ben, la personne dit, bon, ben, vraiment, j'avais raison, quoi. Même plus la peine de vivre encore un jour. Et si on dit, non, regardez comme la vie est belle, la personne dit, bon, je vais attendre que quelqu'un m'écoute vraiment, parce que là, je n'ai pas été écouté.
Et qu'est-ce qu'il propose?
Eh bien, de valider, de dire, j'entends que c'est difficile, je vois que vous êtes mal. Et puis, peut-être de poser une question pour permettre à la personne de dire un peu plus. Sans l'interroger comme un commissaire de police, mais est-ce que vous avez toujours pensé comme ça? Est-ce qu'il y a des jours où c'est plus facile que d'autres? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir maintenant? Donc des questions ouvertes qui peuvent permettre à la personne de dévoiler un peu plus ce qu'elle aurait envie de dire, mais qu'elle n'ose pas dire. Et puis de dire, ben, si on n'a rien à dire, on dit j'entends ce que vous dites et je ne sais pas quoi vous dire.
Non, on ne laisse pas sans réponse.
Je l'entends et Dieu l'entend. Voilà. Et si vous voulez, on peut prier ensemble pour ça. C'est très modeste, hein?
Oui, mais
c'est très modeste, mais ça peut faire beaucoup.
Je me souviens, au cours d'une visite, d'un homme qui l'avait formulé, mais de manière tellement précise, il m'a dit « Où est mon contentement ?» J'ai fait mon temps, ma femme est décédée, mes enfants sont grands, je n'ai plus de contentement. Où est mon contentement ? C'était une personne très simple, mais c'était formulé. De manière tellement précise.
Quelle souffrance il doit y avoir derrière. Plus rien, ça. À quoi se raccrocher. Alors, il y a toujours le Tout-Puissant.
Voilà, dans la Bible, le mot contentement existe. Et il veut dire quelque chose
c'était
de magnifique.
C'était biblique, c'était étonnant de la part de cette personne. Je suis très frappée par ce que vous dites sur le langage, parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses tiennent aux mots, en fait.
Je crois. Parce qu'en fait, vous, c'est surtout du langage que vous véhiculez. Hein, pas laisser une question sans réponse. Finalement, vous avez que votre voix et votre sympathie, quoi. Je ne sais pas ce que vous avez. Votre sympathie.
Et l'attitude, comme vous disiez.
Oui, transparence.
Niveau, voilà. Des choses comme ça qui
sont une forme de langage corporel.
Mettre la main sur le bras. Ah. Ne pas s'interdire de toucher.
Alors ça serait bien que vous en parliez, parce que ça peut atteindre à l'intégrité de quelqu'un qui ne veut pas qu'on le touche.
Voilà.
Vous avez encore restaurer cette intégrité.
Je me demandais si on peut prendre la...
Qu'est-ce que vous diriez là?
Moi, je voudrais demander d'abord.
Il faudrait demander à la personne. Allez-y.
Est-ce que ça vous fait du bien si je mets ma main là? Est-ce que vous voulez? Il y en a qui enfin, qui ne veulent pas. Il y en a qui, au contraire, disciplinent. Mais votre main me fait du bien. Voilà, très bien. Et puis, ça donne à quelqu'un la notion de où sont les autres. De ne pas être isolé dans des draps, des fauteuils, des trucs comme ça, mais que les autres, on se touche, on peut se serrer la main si on veut, on peut... Et s'il ne veut pas, ce n'est pas grave.
Il a le choix.
Il faut accepter d'être...
Énorme, ça.
Voilà, lui laisser le choix.
Il a le choix.
Et c'est vrai que les gens aiment bien une main sur l'épaule ou autre, vous le demandez, vous verrez que...
Jésus a touché, hein.
Oui, ça passait beaucoup par le toucher.
Ça veut dire qu'on n'est pas jusqu'à la personne.
Oui.
On n'est pas autour, voilà. On va jusqu'à elle. C'est
on lui permet important. De savoir où il est, où sont ses limites, où sont celles des autres, et de voir qu'on peut se rapprocher. Ça, je crois que c'est...
Voilà. En se rappelant que tout le monde n'a pas le même ressenti.
Oui, voilà.
Je connais un patient qui, un jour, a été bouleversé par un toucher, et il disait, maintenant, j'espère que vous touchez tout le monde. Alors, j'ai dit, non,
je crois qu'il faut être...
Parce que lui, ça l'avait énormément touché, mais un autre, ça peut le déranger.
Oui, voilà. Non, il ne faut pas y aller du premier coup, hein, mais quand vous visitez quelqu'un plusieurs fois, ça peut faire du bien.
Je crois qu'on n'est pas, quand on connaît bien les gens, ça se fait spontanément.
Oui, des fois, combien de fois moi, je me suis retrouvée avec la main sur l'épaule de quelqu'un.
Tout dépend où on visite.
Voilà. Si vous avez quelqu'un qui est toujours là, dans la même chambre, deux ou trois fois de suite, des fois ça peut venir.
Mais on n'est pas comme gynécologue, effectivement, on connaît les gens.
Là, vous les connaissez mieux aussi.
À l'hôpital, moi, je me suis trouvée une fois. J'avais du malade, donc j'étais à côté d'elle. Je ne sais pas, j'ai déplacé ma main et le fait de frôler presque la sienne, elle s'est agrippée à moi. Et après, je lui ai tenu la main et elle a dit, vous me touchez. Ici, on n'est pas touché, on est manipulé.
C'est incroyable.
Merci. Ça, c'est bien. C'est quelqu'un qui avait dû drôlement réfléchir parce que...
Oui.
En tout cas, il y a
toucher, c'est la vie, oui,
dans laquelle on touche.
Et à la suite de ça, j'ai toujours placé ma main à proximité.
Oui.
Je ne la proposais pas vraiment.
Et c'est
très,
que ça
très souvent, la personne
va
vers
cette
m'attendre.
Oui.
Vous avez entendu parler du toucher du roi. À l'époque des rois.
Pour les écrouelles.
Le toucher du roi était thérapeutique. Comment ?
Pour les écrouelles.
Oui.
Rappelle-nous ce que c'est.
Pour les écrouelles.
C'était le roi qui avait un soi-disant don.
C'est ça.
Pour traiter les écrouelles. C'était des maladies d'origine vénérienne d'ailleurs. Mm-hmm. Et avec des petites tumeurs. Et c'était lui qui avait la possibilité de les traiter rien que par le toucher.
Voilà.
Voilà, c'était ce qui se disait, vérifier ça, je ne sais pas.
Je me souviens ce qu'avait dit la visiteuse de prison qui nous avait visité de Marseille. On a invité un jour une visiteuse de prison pour comparer un peu, et elle avait dit, dans une prison pour femmes, une femme avait dit un jour à cette visiteuse, prenez-moi dans vos bras.
Oui, merci.
Parce que c'est pareil, il y a le même isolement physique, quoi. Elle ne se touche pas. Et donc, voilà, cette femme avait... C'était permis d'exprimer ça, et probablement pour elle, c'était comme un merveilleux médicament. Hein.
Ouais. Combien il y en a qui ne le disent pas, ça ? Ils ressentent. Mais...
Peut-être.
C'est vrai qu'on avance, là, hein, on se rend compte qu'on a tous des expériences. C'est bien de les mettre en commun, parce qu'on a appris quelque chose encore, voilà. Hein, chacun a d'autres souris. Moi, je crois que ces expériences, il faut qu'on les partage, absolument. On ne peut pas les garder pour nous. De toute façon, qu'est-ce qu'on en ferait ? On peut toujours le présenter à Dieu, ça je suis d'accord. Mais après, à quoi ça sert qu'on progresse, nous, dans l'expérience, si les autres n'en profitent pas ? Ah, vous êtes quand même nombreux, là. Donc ça vaut le coup de...
Mais c'est pour ça que je dis toujours que c'est important le témoignage.
Hein. Ah oui, oui.
C'est écrit dans la Bible, déjà, ici. Témoigner, c'est important. Ouais. pas pour se revaloriser tout ça, mais témoigner de la présence du Christ dans notre visite, dans nos gestes. Voilà. Et rappeler que c'est pas nous qui faisons, on est envoyé.
Voilà, ça c'est important. C'est ce que j'appelle la transparence.
Ouais.
Et est-ce que sur un temps que vous passez auprès d'un malade, quel pourcentage du temps vous passez à parler de Dieu ou de la foi?
Ça dépend.
C'est variable. Hein.
Et se dire des fois, bon, moi, je suis restée demi-heure, je n'ai pas parlé de Dieu, ça n'est pas venu. Et puis elle se dire, mais en fait, il était là, donc c'était le principal.
Voilà.
Pour dire un mot du regard, le regard est comme un toucher. Et le regard dit des choses. Et donc il y a un regard qui dit à quelqu'un, tu es plus précieux que ce que tu penses. Et un regard, inversement, il y a un regard qui peut dévaluer la personne en disant, j'ai plein de choses à faire, mais je t'accorde 3 minutes. Et donc le regard est vraiment très important aussi. Et je pense qu'un patient, il capte quel type de regard se pose sur lui.
Vraiment.
Exprimer, tu es important pour moi. Tu as ton importance.
Oui. Le regard, c'est le regard. Le toucher, c'est autre chose.
Oui, c'est
mais quand on propose la prière, les gens ne refusent pas, au contraire. Ouais. Hein. Ils sont contents qu'on prie avec eux.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est très rare, oui.
Mais ça, c'est très variable aussi. Hein. Ça dépend dans quelles circonstances tu as rencontré la personne. Je veux dire, on ne peut pas imposer la prière d'emblée dans une première visite, là non plus. Non. Dire, voilà, on va prier. Après, là aussi, quand c'est en maison de dans un EHPAD, on connaît la personne, on sait qu'elle attend la prière avant de
se pareil, voir. C'est pas pareil, il y a des pâtes, vous les connaissez mieux.
Et d'autres qui sont tellement révoltés contre Dieu qu'on ne peut pas tout de suite parler de Dieu. Quoi. Je veux dire, il faut laisser venir les choses et après quelques visites, on peut... Voilà.
Et ça, alors finalement, vous êtes... comment ça se passe? Vous allez voir un tel, et qui vous a envoyé? Une infirmière a dit...
C'est très variable aussi. Soit c'est signalé par la paroisse, soit c'est l'appel du patient, soit c'est l'appel de le signaler par la famille.
Mm-hmm. D'accord.
Alors il arrive que la famille pense que ça lui fera du bien, la personne venir, et que
le patient
n'a rien demandé.
Ça arrive.
Ouh, moi, au bon Dieu, là, nanana. Bon, voilà. Alors là, moi, je parle de ce que j'ai fait. Je pratique un peu l'humour. Hein. Ouais. Non, je vous sens en colère. Et puis, la personne s'aperçoit qu'on n'est pas là pour vendre quelque chose ou catéchiser non plus. Et on parle un petit peu. Et petit à petit, voilà, allez, asseyez-vous avec moi. Il faut ressentir.
Il faut avoir des petits trucs aussi, quand même, je crois. Des petits trucs comme ça, dire voilà, l'humour là.
Vous avez du chocolat.
Ça, ils font dans ma peau, j'ai
vous essayé. Avez
je l'ai mangé avant.
Mais... je crois que c'est.
Oui.
C'est bon de savoir s'appuyer sur des choses que d'autres ont faites et qui permettent de passer le cap. Quoi. Si vous êtes un peu rejeté du premier coup, il faut l'accepter vous aussi.
Et oui.
Si on vous dit ciao.
Exactement.
Il ne faut pas en vouloir, il faut se représenter.
Ah oui, tout à fait. Donc la motivation avec laquelle on entre est très importante.
Oui.
Parce que si on y va avec un souci de soi trop important, on va prendre à cœur et faire un demi-tour qui sera peut-être méprisant. Une personne peut mal réagir dans un premier temps, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver quand on frappe à la porte. Hein. Et puis, dans la demi-heure qui suit, ça peut changer du tout au tout. Ou à la xème visite, si la personne a acquiescé pour qu'on revienne. Et des aventures, on peut commencer mal et se terminer très bien. Hein. On a sûrement tous vécu une fois ou l'autre. Hein.
Et vous passez...
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sabine tout à l'heure. C'est par méconnaissance aussi, on est souvent associé, enfin l'aumônerie a une connotation d'extrême onction, de gravité, et donc il s'agit de rétablir un petit peu, et là il n'y a que le dialogue, ça peut passer par l'humour ou par d'autres choses, mais c'est souvent cette connotation.
C'est pas vrai.
Ça fait peur de voir quelqu'un de l'aumônerie qui débarque,
tiens, surtout en oncologie. Oui, c'est surtout dans ces services-là.
Dans le cas où les visites ne sont pas demandées par le patient, bien sûr. Hein,
dans les services de fin de vie, vous avez plus de patients qui cherchent, qui demandent.
Pas forcément. C'est parfois le personnel qui demande. C'est d'ailleurs dans ce genre de situation qu'il peut y avoir une inquiétude.
Oui.
Quand c'est le personnel qui dit, tiens, vous pourriez aller visiter monsieur ou madame Antel.
Oui. Disons que, on ne fait pas de porte-à-porte.
Oui, ça.
Donc, on ne va que sur... mais c'est un peu regrettable quelquefois, parce que peut-être qu'on pourrait, notamment dans des services comme l'oncologie, simplement se présenter, dire il y a une aumônerie dans l'établissement.
Juste
ça m'est arrivé à un moment, peu de temps après le Covid, j'avais demandé à la surveillante en oncologie si je pouvais aller, parce que c'était pendant la période du Covid, il n'y avait plus de visite.
Oui, oui.
Donc ça m'a permis d'avoir une entrée, de dire, écoutez, comme les familles ne sont pas autorisées, je me permets de venir prendre de vos nouvelles. Et là, vous sentez, si la personne disait, installez-vous.
Je me souviens au cours du mois, pendant que je travaillais, il y avait des visiteuses qui passaient de porte en porte, un air sinistre devant, et qui disait rien aux soignants, qui demandait pas si elles pouvaient rentrer dans la pièce ou autre. Des fois, il fallait les faire sortir pour un soin. J'ai fini par leur demander, mais qui vous envoie? Je me suis permise, j'étais le second de l'équipe. Qui vous envoie? Qu'est-ce que vous faites? À qui vous voulez parler? Et comment vous connaissez ces gens? On les connaît pas. C'était de porte en porte. Alors, il y avait des fois où on en... Elle sortait un peu vite, parce que vous avez dû se faire renvoyer. Se présenter, dire on est là, bien. Et d'entrée de jeu, vouloir parler de Dieu, non. Les gens ne le supportent pas, même les croyants.
Il y a des gens qui manquent de discernement. Ouais. Un pasteur raconte dans son livre, avec un peu d'humour, qu'il y avait des personnes qui passaient dans son établissement. Il y en a une qui passait, elle a distribué des tracts. Et le tract commençait par les pompes funèbres. Alors il m'a dit, écoutez, non, c'est pas sérieux.
Non.
Alors, une de nos visiteuses, Jenny, fait du porte-à-porte pour rappeler qu'il y a une aumônerie, avec l'accord du cadre de santé. Voilà. Donc, c'est pas de sa propre initiative.
Voilà. D'accord, c'est différent.
Oui, ça dépend si c'est
à l'hôpital. Non, à l'hôpital. C'est un peu expérimental, si tu veux.
Ça dépend aussi de qui est le cadre de santé, s'il est croyant ou pas.
Oui, tout dépend du cadre de santé.
En cardio.
En cardio ? Oui, ben ça va. La cadre de santé,
il y a une personne qui m'a refusé une fois, je présente le monnerie, il dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Et je passe la semaine d'après. Et ce monsieur était toujours là. C'était assez rare de voir la médecin. Il m'a dit, si vous avez le temps, je veux bien discuter.
Intéressant, hein.
Il
ne faut pas qu'on lâche le morceau, quand il soit là.
Et du coup, la visiteuse qui donne l'information, signale,
transmet.
Transmet, si c'est un catholique, elle va transmettre l'aumônier catholique. Voulez-vous que l'aumônier vienne? Si oui, puisque c'est une démarche à l'initiative de l'aumônerie, il faut ensuite ventiler.
Vous êtes où, vous?
À l'hôpital.
Ici, l'hôpital. Et vous répartissez les services? Comment vous faites? Vous êtes plusieurs sur l'hôpital? Comment ça se passe?
Alors, ça a évolué selon les périodes, mais pendant longtemps, il y avait deux visiteuses et moi. Et maintenant, eh bien, on est deux, Jenny et moi. Les autres sont dans les maisons de retraite, de l'hôpital, autre maison de retraite, ou dans les SSR. Voilà.
Là, vous vous répartissez alors
l'hôpital n'est pas si grand. Donc on peut aller d'un bout de l'hôpital à l'autre assez facilement. Et il n'y a pas tant de patients que ça nous prendrait, un service. On aurait fait le tour trop rapidement. Donc,
Et comme on n'y va que sur appel ou signalement, donc ça réduit.
Oui, d'accord.
Voilà.
J'ai juste un exemple pour un peu faire avancer. Une dame donc à l'EHPAD que j'ai visitée pendant, je crois que c'est quand même quelques années. J'étais en train de chercher, c'était quelques mois, quelques années. Ça doit être quelques années. Elle était très bien entourée par son fils et sa belle-fille, croyants, protestants. Et cette dame, donc elle avait vraiment envie que je vienne la voir, mais c'est tout. Parce que son fils lui l'abreuvait très généreusement de verser de la parole. Donc elle avait ce qu'il fallait. Et cette dame avait pour habitude de sortir de sa chambre et de se mettre juste à côté de l'encadrement de la porte. Alors, je ne sais plus si c'était en fauteuil roulant ou déambulateur. En tout cas, bon, elle était assise à côté de la porte. Et mon rôle, enfin, ce qu'elle attendait de moi, c'est que je m'assoie à côté d'elle. Alors, je ne sais plus si c'était à moi de mettre mon bras sur le sien ou l'inverse. Et voilà.
Peut-être là.
Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et en fait, ça a duré.
Ah oui.
Donc, c'est plusieurs mois. Enfin, je ne me rappelle pas. Mais on restait longtemps comme ça. Et puis, finalement, cette dame, son état de santé s'est dégradé. Son fils continuait beaucoup à lui parler. Et c'est un jour, elle, qui m'a posé une question. Je ne sais plus si c'est sur l'au-delà. Enfin, je ne sais plus. Bref, c'est elle qui a amené la conversation, voilà, sur le Seigneur, quoi. Et puis finalement, donc je sais, bon, j'ai dû parler du Seigneur Jésus-Christ, je ne sais plus ce que j'ai dit exactement. En tout cas, c'est à sa belle-fille qu'elle s'est confiée et elle a donné sa vie au Seigneur auprès de sa belle-fille, avec sa belle-fille. Ah, oui. Et puis elle est décédée quelques temps après. Ça m'a marqué parce que c'est vrai que quand on était là toutes les deux, je me demandais pas ce que je faisais. Et finalement, je pense qu'il y a eu toute une mise en confiance qui s'est faite.
Il se passe des tas de choses.
Je respecte son silence.
Quand tu as su, c'est incroyable.
C'est
ce qui se passe.
Oui.
Hein.
Oui.
C'est incroyable. Quand on réalise la présence qu'il y a auprès de chacun dans le monde, parce que mon monde est ici, mais il y a toujours quelqu'un. C'est le Seigneur, il est toujours là. Si en plus il y a quelqu'un qui le manifeste un peu, c'est encore mieux.
Ah, d'accord.
Voilà, parce que c'est pas, la perception, elle n'est pas facile. Elle.
Ouais. Et puis un deuxième point, j'arrête.
non,
c'est un deuxième cas complètement différent. À l'EHPAD de Bagar, là où je visite, il y a un très grand hall avec des fauteuils, un peu comme on est là. Donc quand on arrive, il y a toutes les personnes. Et puis l'aile psychiatrique est juste en face. Et il y a un monsieur que je visitais parce qu'il le désirait. Et puis je vois venir vers moi ce monsieur, voilà, enfin, se diriger, oui, je pensais vers moi. Et puis arrivé à mon niveau, il m'a traité d'un vilain nom d'oiseau que je ne répéterai pas, mais qui a mis tout le monde mal à l'aise. Les personnes qui étaient là m'ont regardé en me disant comment elle va réagir. Et puis bon, j'avais vraiment envie de sourire parce que j'aime bien rire, donc voilà. Puis ce monsieur a passé son chemin, il était dehors. Et la fois d'après, alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'avais pas trop envie de retourner le voir dans sa chambre, c'est dans sa chambre que j'ai visité habituellement. Et puis intérieurement, je me dis quand même, je peux pas ne pas aller. Donc j'y suis allée, mais vraiment en demandant au Seigneur de m'accompagner, quoi, voilà. Et quand j'ai frappé à la porte, j'ai entendu entrer, que j'ai ouvert la porte, il m'a dit, ah Caroline, je vous attends, dès qu'est-ce que je suis là. Voilà. Et en fait, j'ai vu pendant plusieurs années ce monsieur.
Il y avait
mais j'aurais pu m'en tenir à ce vilain nom d'oiseau, puis dire... Oh,
bon, les soignants vivent des choses un peu comparables. Hein, on leur apprend qu'il ne faut pas le prendre pour elles.
C'est
un malaise qui s'exprime. Enfin, là aussi, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas. Mais il a regretté peut-être juste après.
Et on ne sait pas. Je ne sais même pas s'il s'en rappelait.
Oui,
il avait dû la confondre avec quelqu'un d'autre.
C'est la solution.
On saura pas. Ce sont les mystères de la communication. Oui. Et toutes ces questions, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, toutes ces recherches, si on les rassemble, si on les présente à Dieu, je crois que c'est déjà la moitié du travail de fait. Et après, Dieu, on le présente à ces personnes-là. Je crois que si on n'a pas fait la première partie, on n'est pas libre de toutes ces souffrances, de tout ça, pour être soi-même vide. Hein, on présente, et puis après on peut donner, on peut... Après cette vide-là, on peut quand même donner, voilà. Il faut avoir les mains vides pour pouvoir donner. Je crois que c'est important, ça. Si on n'est pas... Si on n'a pas le courage...
Redites-le.
C'est une belle phrase.
Pour les mains vides, pour donner.
Je peux la mettre entre guillemets de votre nom et...
Tout à fait. Parce que ce sont des phrases, ça.
Ça me choque comme ça.
Je ne sais pas, je peux dire ça. Quand même, non, je m'embête un peu.
Non, mais...
Mais j'entends ce que je veux dire.
Quand Jésus a multiplié les poissons,
Il y en avait une qui avait.
Il y avait un petit.
Il y avait un petit chose. Hein.
Et puis, il doit toujours rester quelque chose. Vous avez raison. De toute façon, qui est capable de se vider complètement, je ne sais pas. Déjà, premièrement, voilà. Il faut y tendre, je crois, quand même. Pour être disponible, il ne faut pas être encombré de soi-même. Si vous vous trimballez avec tout votre bagage à vous, vous ne serez jamais à l'écoute des autres, c'est pas vrai.
Non, c'est sûr.
Mais il n'y a pas aussi quand même une utilité à un petit peu se livrer vis-à-vis des personnes.
Je crois qu'il en faut un peu.
Parce que moi j'ai l'impression, dans le contexte que j'ai, avant la maison de retraite, j'ai exercé en paroisse, que quelque part, en montrant un peu aussi qui on est, ce qu'on a vécu, il y a des éléments de confiance qui s'établissent, et les gens ils se disent, ah mais c'est pas... Ils rencontrent des difficultés qu'on a rencontrées, etc. Ouais. Il me semble que c'est nécessaire. Pouvoir aussi.
C'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui parce que je me suis beaucoup livrée, moi, là. Mais je pense que j'hésitais avant de le faire. Et je pense que comprendre qui est la parole, la personne qui prend la parole en face de vous, qui elle est, ce qu'elle a un peu vécu, je crois que ça permet quand même un meilleur dialogue. C'est ça.
On n'est pas à sa place. Hein. Serge Devise me disait, ne dites pas, je me mets à votre place. Parce que sinon,
l'autre
se met où. Mais voilà, on peut dire, je comprends. Il m'arrive aussi de passer par des moments, des sentiments comme ça. Je ne suis pas sur une autre planète. Quoi. Il n'y a pas la planète des bien-portants, la planète des malades. Mais on vibre un peu.
Daniel en disant, montrer sa propre vulnérabilité, c'est rejoindre l'autre.
C'est ça. Comme Jésus a fait d'ailleurs, encore une fois. Hein. Jésus était pauvre et faible.
C'est vrai que les poissons, la multiplication, vous avez raison, il y avait quelque chose. Ah, heureusement qu'il y avait ce gamin. Hein. Ah, parce que c'était un gamin aussi. Et il était pur. Il avait gardé les poissons. Pourquoi? Mais petit gamin là qui donne des leçons à tout le monde finalement. Mm-hmm. C'est l'enfant qui est clair, qui est pur et qui a pu donner tout son cœur avec ses poissons.
Je pense à la question des larmes. On n'a pas évoqué ça. Quelqu'un qui pleure, c'est un peu comme quelqu'un qui dit « je voudrais mourir ». Il peut y avoir beaucoup de choses très différentes derrière. Hein. Il peut y avoir de la lassitude, un besoin de communiquer, de la dépression, un désespoir. Bon. Quelqu'un qui pleure, son intégrité est un peu fissurée quand même. Parce qu'en général, on ne pleure pas comme ça. En tout cas, les hommes ne pleurent pas comme ça. Quoi. Et qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous recommanderiez comme attitude devant quelqu'un qui se met à pleurer, par exemple?
Je vais vous dire, j'ai peu vu pleurer.
Ah bon?
Très peu, dans toute ma carrière.
Tiens.
J'ai vu des gens qui étaient amputés. Mais ça m'est arrivé quand même. Je crois que la seule chose, c'est de dire, je suis là. Je vous écoute. Et puis c'est tout. Si on peut tenir la main ou autre, mais si on sent que la personne le veut, je crois que c'est tout ce qu'on peut faire. Quoi.
Qu'est-ce que vous voulez faire?
Et pas dire non plus, allez-y, profitez, parce que c'est pas
porteur.
Ne pas dire ne pleurez pas. Parce que ça empêche un réflexe aussi.
Il faut que les gens puissent sortir ce qu'ils
ont. Ni allez-y, pleurez.
Mais c'est heureux ceux qui pleurent.
Il ne faut pas trop mettre quand même.
Non, mais bon.
Non, c'est vrai, je pleure.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une douleur qui est au-delà des pleurs, alors?
Oui.
Ah. Ça, c'est intéressant aussi. Quelqu'un qui ne dit rien, par exemple.
Il ne peut plus pleurer.
Il ne peut plus pleurer parce que...
Ça a été trop, la coupe est pleine. Et il n'y a plus de place pour qu'elle s'écoule. Quoi.
Comment le repérer, ça?
Je crois que ça dépend des caractères, quand même, aussi. Hein. La personne en face de vous peut avoir un caractère à ne jamais pleurer.
Bien sûr. Maria a dit que ça dépend des cultures, aussi.
Oui, moi, j'ai vécu longtemps au Maroc. Les gens vont pleurer, voilà. Mais en tant que je suis sophrologue, donc quand quelqu'un se mettait à pleurer, je me souviens d'une jeune femme comme ça. Vraiment, elle est partie à pleurer. Je lui ai avancé la boîte de Kleenex. J'ai rien dit. J'étais à côté d'elle intérieurement, je priais. Et puis quand elle s'est calmée, peut-être 15, 20 minutes, ça a été très... Elle m'a dit, c'est la première fois que je peux vivre mes pleurs sans que quelqu'un intervienne. Ça m'émeut encore aujourd'hui en le racontant. Je dis merci Seigneur, parce que c'est lui qui était là, je veux dire. Une autre fois aussi, j'allais beaucoup à domicile, et quand j'avais, je me rappelle, un patient qui était vraiment je le sentais pas, quoi. C'était dans le contexte du Maroc, une Européenne qui rencontre, enfin bref, c'est tout un schéma. Je disais, Seigneur, tu passes devant. C'est, je me revois encore, Seigneur, c'est toi qui passes devant, parce que là, je sais plus trop bien ce que je veux dire. Et finalement, et ben, ça se dénoue, je veux dire, mais je l'ai vécu plein de fois. Quand vous dites être transparente, pour moi, c'est aussi être un canal. Donc un canal, il faut qu'il soit ouvert, parce que s'il n'est pas ouvert, Seigneur, merci, quoi. Et quand on est avec quelqu'un de croyant, ça m'est arrivé avec des musulmans, on partage tout de suite, ben oui, je crois en Dieu, pas de la même façon que vous, je suis chrétienne. Mais là, tout de suite, on est... Les choses s'élèvent.
Ça rapproche quelque part de enfin, je trouvais presque plus facile de discuter avec des musulmans, par exemple, des juifs. Le fait de se dire on n'est pas de la même religion, mais on se rencontre, je trouve que ça enrichit déjà le dialogue.
Le dialogue, il monte. Il est autre.
Oui.
Je n'aime pas dire
plus. Moi, c'est la référence supérieure.
Mais moi, je me rappelle, c'était un soulagement, parce que là, on a d'autres mots pour aider aussi l'autre, on peut prier ensemble, même quand c'est juste... À l'époque, j'ai jamais été visiteuse, je veux dire. Donc les gens allaient me payer. Et je me rappelle que les gens qui n'étaient pas croyants, quand ils me disaient merci, je disais merci à la vie, parce que j'essayais de leur faire prendre conscience qui décidaient pas de tout, qui avaient le mouvement de la vie, parce que des fois les gens posent, non, je suis pas croyante, et Dieu n'existe pas, pourquoi, enfin, le schéma habituel, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il m'est arrivé telle chose. Ok. Merci au mouvement de la vie.
Ça, chapeau aussi, c'est excellent.
Là, je sais pas, ça, je l'ai eu dans ma formation, mais pour moi, c'était important d'élever un petit peu les choses. Après, c'est le Seigneur qui fait. Moi, je dis, on sème des graines, en tant que croyant, et le Seigneur y fait le reste. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, nous, on fait notre job, mais c'est le Seigneur qui fait le reste, parce qu'on ne peut pas pénétrer les pensées de quelqu'un, on peut des fois mal interpréter une expression sur un visage, une parole, comme tu disais, le monsieur il était en colère peut-être, non, on ne sait pas, on n'est que être humain. Il n'y a que le Seigneur qui sait. Mais quand on est face à quelqu'un qui est athée, faire conscience qu'il y a une autre dimension. Pour moi, en tant que chrétienne, croyante, en termes musulmans, c'était tellement important.
Vous avez raison.
Enfin, je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est basé sur du vécu, je veux dire. Hein. C'est ce que j'ai vécu et les gens... Ah, bon. Ok, mais...
Elle a quelque chose d'autre, voilà.
C'est le Seigneur qui travaille après, c'est plus de mon ressort, je veux dire. Quand vous dites qu'il faut offrir, quand on a des moments pénibles, je veux dire, des gens qui vous rabrouent, qui vous... Des manifestations de racisme, hein. Bon, Seigneur, pardonne-leur, hein. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dit, ils ne savent pas... Bon, il faut l'offrir, je pense, vous l'avez dit très justement.
Je parle aussi d'offrir les souffrances que l'autre ne peut pas offrir. Oui, là, on n'a pas besoin de souffrance.
Hein.
C'est un cadeau qu'on lui fait. Donc. Mais offrir cette difficulté à vivre pour pouvoir retrouver la vraie vie, la vraie ligne de la
tout
vie.
Tout à fait. Et puis, si on n'est pas médecin psychiatre, et moi, il m'est arrivé d'accompagner des gens dépressifs en complément d'un traitement. Hein. Je ne prenais jamais quelqu'un qui n'avait pas d'abord vu un médecin et qui me dit ça y est, je vais arrêter mon traitement. Non.
Parfois, la perte d'intégrité sociale.
Oui.
Voilà, par rapport à la famille, tout ça,
Par rapport au travail.
Au travail, voilà.
Les questions qui peuvent se poser, et c'est souvent par là que commencent à parler certaines personnes, en disant, mais qu'est-ce que je fais avec ma famille? Je ne vais plus pouvoir prendre mes petits-enfants dans les bras, je ne vais plus pouvoir conduire, je ne vais plus pouvoir aller amener ma femme au marché, des choses comme ça. Et puis, il y a le travail. Si on est en activité, qu'est-ce que je vais faire pour le travail? Je ne vais plus pouvoir prendre le même poste. À mon âge, retrouver quelque chose. Donc là, il y a toute une autonomie sociale qui se perd aussi dans certains cas. Et ça, on n'en parle pas.
Parce que là, on a parlé justement d'accompagnement, de la visite, enfin tout ce qu'on peut faire autour du patient qu'on rencontre, mais on parle souvent aussi avec des familles.
Et voilà.
Et ça,
ils ont besoin d'aide aussi.
Et les médecins ici le disent que c'est ce qui est le plus compliqué.
Oui, c'est très dur à gérer.
Les familles. Parce que le rapport n'est pas le même.
Et là, vous devez être confronté de temps en temps, parce que les familles sont là des fois quand vous passez, quoi. Vous avez l'occasion de les rencontrer. Là, je crois que le rôle que vous avez aussi est important là aussi. Quel est le médecin qui va dire comment vous allez faire pour votre travail? À part d'être médecin du travail aussi, il y en a peu qui le font. Hein. Mais c'est vraiment important. Moi, j'ai vu des amputés des deux membres inférieurs qui sont arrivés à reprendre le travail. Mais il a fallu un accompagnement en disant c'est possible. On commence par une prothèse d'un côté pour que vous passiez du lit au fauteuil. Quand cette prothèse va à peu près, on fait l'autre prothèse. Ça prend du temps, c'est douloureux, c'est pénible. Mais si le corps médical, dans l'ensemble, ne se préoccupe pas de ce côté-là aussi, en disant, mais si vous marchez avec une voiture adaptée, si vous avez les moyens, vous pourrez reprendre le travail que vous aviez avant, faire un travail de bureau, ben je vous assure qu'ils font des progrès rapides. Et là, je crois que le rôle des soignants est important, soutenu par la réflexion que vous pouvez faire avec eux.
Les aménagements
possibles. Hein, oui, voilà.
Enfin, j'imagine qu'il y a un accompagnement psychologique, enfin, l'équipe derrière.
Je ne suis pas sûre.
Ça peut
dans
arriver.
Les hôpitaux.
Ça peut arriver quand même.
Il y en a, il y en a, oui.
Oui. Ouais. Ça, c'est un souci.
Voilà. Je sais que moi, je m'en suis occupé beaucoup.
Alors, quand
parce que je suis en train de aussi. Mais c'est vrai que ça nous rajoute une partie de travail. Et d'un autre côté, la relation avec la personne est telle qu'on y gagne. Comment on améliore le patient qui voit qu'on se préoccupe de sa famille, qu'on demande des nouvelles, ne serait-ce que ça, et qu'on se préoccupe de son travail, je vous assure qu'il y gagne. Et nous aussi. Parce que c'est plus facile.
C'est pour ça qu'avant on disait médecin de famille.
Oui, oui.
Vous connaissez toute l'histoire.
Ça n'existe plus maintenant.
Non. Est-ce que quelqu'un est venu avec une question qui n'a pas été abordé ou qu'il aurait voulu exprimer en rapport avec le thème?
Ça fait large, hein, comme thème.
C'est vrai?
Ouais. Ben, c'est bien. En tout cas, c'était chouette, parce que vous êtes nombreux.
J'entends aussi dans ce qu'on a dit, il me semble, je le formulerai peut-être comme ça, que il y a quand même une part d'intégrité qu'on ne peut pas perdre. On va parler de la perte d'intégrité, mais il y a une part d'intégrité qu'on ne peut pas perdre. Et aller vers cette personne avec cette conviction, ça me semble être positif. Alors une personne qui peut être consciente qu'elle perd beaucoup de choses, arriver avec la conviction, sans forcément la formuler, mais nous, dans notre cœur, qu'il y a une part d'intégrité humaine qui vient de Dieu, et qu'on ne peut pas perdre, ça nous donne des respirations.
Ouais. Même chez la personne qui semble avoir perdu l'esprit complètement ou autre, il y a toujours un petit éclat de lucidité, il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas.
Sans même l'avoir, le fait que le regard de Dieu est toujours le même. Si le regard des autres est différent parce que la personne ne parle plus, parce qu'elle n'est plus consciente, parce que.
Dieu est toujours
le regard de Dieu vis-à-vis de cette personne est toujours le même, il ne change pas. Et il la regarde comme une personne, même si les gens la prennent comme une chose à un moment donné. Et donc, aborder la personne qu'on voit perdre son intégrité avec la conviction qu'il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas perdre, ça me donne de l'oxygène.
Oui, c'est vrai. Donc là, le regard est très important.
Mais je pense qu'on l'a dit. Je le reformule un peu.
Non,
c'est par rapport au titre de la perte d'intégrité, je trouve que ça fait choc de dire qu'il y a quand même quelque chose. Qu'on perd pas.
C'est un titre toxique. Hein. Moi, je sais pas. Pour m'avoir posé ça, je sais pas. Vous regardez ça, moi, j'ai pas envie de travailler dessus, mais c'est vrai.
Quelquefois, pour aller dans ce sens, je me dis cette personne a eu 5 ans, a eu 12 ans, a eu 18 ans, elle a eu 30 ans.
Elle est unique. Riche,
on sait elle pas. Est unique.
Et c'est la même personne. C'est la même personne. C'est ça.
On peut toucher.
Elle est unique. quand on passe à toutes les personnes qu'on a rencontrées, des personnes en situation difficile ou autre, on se rend compte de tout ce qu'on a apporté à dire, enfin, à faire remonter un petit peu pour dire, ben, viens nous aider un peu pour la prochaine fois. Quoi. Oui, tu passes devant.
Tu passes devant. La prière du paillasson.
Oui, tout à fait. Tiens, c'est bon, comme terme. La
prière du paillasson. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important d'abord, je le disais l'autre jour à Olga, on ne sait jamais hein, les situations qu'on va rencontrer, prendre le temps de la prière avant d'aller faire visite.
Oui, c'est
voilà. Que Dieu nous précède. Donc voilà, on prie. Et je trouve que, voilà, on sent quand même qu'il y a une force qui.
Alors, toujours dans le même sens, ce qu'a dit Daniel et toi. Que nous-mêmes, nous soyons conscients de cette intégrité que nous avons, pas par mérite, mais par grâce, étant créés par Dieu, n'étant pas comme des animaux, étant aimés de l'amour éternel en Jésus-Christ. Et donc, c'est un peu le « aime ton prochain comme toi-même hein, ». Je veux dire, si nous-mêmes, nous avons une intégrité blessée ou altérée, on aura probablement, ou au contraire, échafaudé de manière un peu... outrancière ou extravagante, eh bien, on ne va pas être transparent comme vous l'avez dit. Donc, la grâce que je reçois va se communiquer sans que j'y songe, mais cette grâce, je dois la recevoir pour moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire?
Et faisons attention à ne pas être à la phrase aimer comme nous-mêmes. Il faut d'abord s'aimer soi. Il ne faut pas rejeter quelque chose de soi.
C'est ce que je
sinon, ça va rester que.
C'est ça.
Ça va rester dans un coin, ça va nous gêner dans la relation avec nous-mêmes. Donc déjà, s'accepter, s'aimer.
Je suis aimé.
Ouais, oui.
Je peux aimer.
Donc, je peux.
Ah, ouais, c'est ça. Ouais.
Ça va être de loin, hein.
Quand même.
Incroyable. Vous avez la chance d'être encore en relation avec les patients, les personnes âgées. Je vous admire quand même, parce que c'est pas facile, je vous connais. Vous n'êtes pas souvent bien reçus dans les chambres, dans les... Mais franchement, je vous admire, parce que...
Mais trompez-vous. Non, pas du tout, pas du tout.
Il y a beaucoup de reconnaissance, quand même.
Je vois qu'il y a du bon, là.
Mais je dis ça parce que j'ai fêté mon départ un jour, et je me suis dit, ah, j'aurais dû dire ça, parce que j'ai 25 ans d'aumônerie. Et aujourd'hui, je me dis, mais j'ai encore des choses à recevoir. C'est, ouais. J'ai reçu des grâces, des cadeaux. Moi, je suis toujours émerveillée. Et je pense que c'est ça qu'il faut continuer de s'émerveiller, émerveillée de la rencontre et de la confiance que les gens peuvent donner dans ce moment-là. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, et ils vont se déposer comme ça, comme un cadeau. Et ça, c'est
vrai.
Et des personnes qu'on a rencontrées, qu'on n'aurait jamais rencontrées ailleurs.
Ah, oui,
c'est vrai, je l'ai dit, quelquefois, j'ai eu accompagné des médecins, comme j'ai eu accompagné des SDF, moi.
Oui.
Donc,
c'est pareil.
Ah ben oui, mais voilà.
Vous en avez
Caroline, chaque personne est unique. Hein. Donc, il y a son histoire qui n'est jamais la même que la voisine. Enfin, mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas plus de bénévoles qui viennent à l'hôpital. C'est vrai, parce que je vous assure que vous êtes... Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir noté toutes ces rencontres. J'en ai noté quelques-unes, mais je me dis, mais si, vraiment...
C'est vrai qu'il faut qu'on sache voir le positif.
Ah,
ouais. J'avais fait un petit paragraphe dessus, mais franchement, il faut y insister là-dessus.
Oui. Nos
visites suscitent beaucoup de reconnaissance, presque chaque fois. Et alors qu'on ne fait pas grand-chose, mais on est là. Et donc, merci. On entend beaucoup, et cette joie de visiter... Et d'honorer les personnes que nous visitons aide à passer sur beaucoup d'inconforts qui peuvent exister aussi. Hein. Mais moi, je dirais comme Sabine, la joie l'emporte quand même. Alors, dans l'ensemble, hein, il y a des moments qui peuvent être plus ingrats ou des moments très émouvants. Mais dans l'ensemble...
Ça bouscule, mais même si on est bousculé, tant mieux qu'on soit bousculé.
Ah oui, il ne faut pas rester assis sur ses fesses. Non, il faut bouger là.
Oui, non, mais c'est bien parce que ça nous remet en question, ça nous oblige à nous nourrir autrement. Ouais. Enfin, oui, c'est une grande
richesse. Et j'ai bien aimé plusieurs fois, vous avez fait le lien avec la parole. Et c'est vrai que quand on a un peu une connaissance des textes par-ci par-là, qu'il reste un petit morceau de psaume d'un côté. Bien, je crois que ça nous aide aussi. On sent qu'on n'est pas seul. Oui. Je crois que ça, c'est important. Garder le lien aussi avec cette parole. Penser aux poissons, penser aux...
Moi, je pense souvent à la visitation.
La visitation, c'est
de joie.
J'ai eu la chance d'arriver à El Carmel, là où était Elisabeth, d'y arriver à pied ce jour-là. J'étais en Israël, Palestine, et il y avait une panne de car. Enfin, il y avait une anatomie. Et donc, je n'ai pas pu prendre le car comme je voulais. Je suis allée à pied. Je suis arrivée à El Carmel à pied. Je ne peux pas vous dire... Alors, c'est El Carmel ou un autre, on ne sait pas où elle habitait, Elisabeth, c'est pas. Mais il y avait ce symbole de me dire, je vais visiter à El Carmel, juste à côté, il y a un hôpital, le Hadassah. Donc, je suis allée rencontrer une jeune médecin. Et là, je me disais, je visite, je fais la démarche à pied, certainement là, par là où la Vierge est passée, grosso modo. C'est quand même important, ça m'a touché aussi, ça m'a beaucoup touché. Ça, j'ai eu une grosse chance.
Moi, je dis que ce serait bien que quelqu'un prie pour Chantal Kislig avant qu'elle reprenne la route.
Ah, c'est gentil.
Hein?
Moi, je veux dire.
Donc, celui ou celle qui veut, prie pour elle, pour voilà, que Dieu la bénisse. Hein. D'accord?
Seigneur, nous te remercions pour ce temps d'échange, tous ces partages que nous avons pu avoir les uns les autres. Merci de bénir Chantal Kislig qui est venue nous parler de cette perte d'intégrité. Et Seigneur, c'est bon de se rappeler que nous sommes aimés de toi. Nous sommes chacun un être unique que tu as créé et que tu connais par cœur. Seigneur, merci de raccompagner Chantal, de la bénir, de la garder en route et qu'elle continue à être aussi porteuse de ce qu'elle a en elle. De cette croyance, tout son vécu aussi, qu'elle continue à en faire part pour que d'autres en bénéficient comme nous l'avons été cet après-midi. Merci aussi, Seigneur, de nous conduire tous, de nous accompagner dans cet engagement de monorie, que chacun à sa place tire de toi la source de la vie, tout ce que nous pouvons transmettre, que nous soyons des canaux qui laissons passer ta lumière, Seigneur. Merci pour cette opportunité que nous avons de visiter encore aujourd'hui. Fais-nous la grâce, s'il te plaît, de ne pas nous en priver. Amen.